Merci de vous joindre à nous. Il est 17h sur Radio Orient, le journal Nadia Bencher. Voici les titres. Nouvelle flambée de violence au Proche-Orient à Gaza. 5 Palestiniens, dont 3 enfants, ont été tués ce mardi lors de frappes et tirs israéliens. En Cisjordanie occupée, des colons israéliens ont tenté d'incendier une mosquée près de Naplouse. Le bras de fer continue entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran se dit prêt à remplir ses engagements si Washington revient à l'accord de juin. La 5e République perd l'une de ses figures. Édouard Balladur est mort à 97 ans. L'ancien Premier ministre reste associé à son duel avec Jacques Chirac en 1995, nous dira le politologue Roland Cayrol. Bonjour, je vous le disais en titre, nouvelle journée de violence dans les territoires palestiniens à Gaza. 3 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées ce mardi lors d'une opération israélienne visant un haut responsable du Hamas. Une dizaine de frappes et des tirs nourris de drones ont visé l'ouest de Gazaville. Israël affirme avoir arrêté le responsable, recherché, ce que conteste une source sécuritaire palestinienne. 2 autres personnes, dont un enfant, ont également été tuées par des tirs israéliens dans le centre de l'enclave. Et les tensions se poursuivent en Cisjordanie occupée, où des colons israéliens ont tenté dans la nuit de lundi à mardi d'incendier une mosquée à Bazariyeh près de Naplouse. Le feu a pu être maîtrisé avant d'atteindre le bâtiment principal. Des graffitis menaçants en hébreu ont également été découverts sur les murs de la mosquée. Selon les autorités palestiniennes, 13 mosquées ont été profanées ou prises pour cible depuis le début de l'année. Faute d'argent, le programme alimentaire mondial réduit de moitié son aide en Cisjordanie. 200 000 personnes en seront désormais privées. Une coupe drastique alors que 900 000 Palestiniens y sont aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire. En Syrie, au moins 5 personnes ont été tuées ce mardi dans l'explosion d'une voiture chargée de munitions à Binish, dans la province d'Idleb. Les causes de l'explosion restent inconnues jusqu'à présent. Une Syrie toujours confrontée aux tensions avec Israël, mais qui mise désormais sur la diplomatie. Damas confirme des négociations sous médiation américaine, tout en dénonçant plus d'une centaine d'incursions israéliennes depuis juillet. En Irak, la justice a terminé ce mardi l'interrogatoire de plus de 5700 personnes soupçonnées d'appartenir au groupe État islamique transféré de Syrie au début de l'année. Parmi elles figurent des Irakiens, des Syriens et des ressortissants étrangers de 67 pays qui doivent désormais être jugés. Le président chinois Xi Jinping est attendu ce soir en Égypte pour sa première visite dans le pays depuis 10 ans avec Abdel Fattah al-Sisi. Il doit notamment évoquer la guerre au Moyen-Orient, l'Iran et le détroit d'Ormuz, mais aussi renforcer la coopération économique entre Pékin et le Caire. Nouvel appel de Téhéran à Washington pour sauver la voie diplomatique depuis le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Kyrgyzstan. Au Kyrgyzstan, le président iranien Massoud Pezeshkian exhorte les États-Unis à respecter l'accord censé mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Un appel alors que les frappes ont repris entre les deux pays après un mois d'accalmie. Inès Gilles.
Et oui, Nadia, le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé mardi les États-Unis à respecter l'accord censé mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Un accord mis en péril au lendemain de la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran. Pour le président Pezeshkian, l'Iran renouerait immédiatement avec ses engagements pour mettre fin à la guerre si et seulement si les États-Unis revenaient au protocole d'accord. Et le président iranien ne s'exprime pas à n'importe quelle occasion, vous l'avez dit. Il s'exprime en marge du sommet régional au Kyrgyzstan, un sommet qui réunit les dirigeants russes, iraniens, chinois, indiens, pakistanais et turcs qui veulent faire contrepoids à l'influence occidentale. Une manière pour l'Iran de montrer qu'il n'est pas isolé dans son opposition à Washington. Le président Massoud Pezeshkian a d'ailleurs remercié aujourd'hui son homologue russe, Vladimir Poutine, pour sa position dans la guerre au Moyen-Orient. Les deux présidents s'étaient déjà rencontrés lors d'un sommet au Turkménistan en décembre 2025, mais c'est la première rencontre depuis le début de la guerre en Iran. Pour rappel, Moscou a considérablement approfondi ses liens militaires et économiques avec l'Iran depuis son invasion de l'Ukraine en 2022.
Et dans le même temps, Inès, les heurts se multiplient dans le détroit d'Ormuz.
Et oui, un tanker a été touché par 3 projectiles inconnus alors qu'il quittait le détroit d'Ormuz, selon une agence maritime britannique, UKMTO, qui précise que l'incident s'était produit à 31 km des côtes omanaises. La société de sécurité maritime VanguardTech a ensuite identifié le navire comme le Sénégal Prosperity, battant pavillon libérien. Elle a précisé que des roquettes ont touché le navire sur son flanc bâbord, la salle des machines et un ballast, provoquant une perte des communications, mais l'équipage est sain et sauf, selon VanguardTech. Et puis hier, l'Iran a affirmé qu'un navire pétrolier avait été immobilisé après avoir heurté des mines lors d'une tentative, je cite, illégale, de franchir le détroit d'Ormuz. Une information démentie par l'armée américaine.
Merci Inès pour ces précisions. En Ukraine, au moins 12 personnes ont été tuées, des dizaines blessées dans la nuit de lundi à mardi lors de frappes massives russes sur Kiev et sa région. Plus de 200 drones et plusieurs missiles ont été lancés, poussant Volodymyr Zelensky à réclamer davantage de moyens de défense anti-balistique. Et la guerre en Ukraine s'invite aussi au G20 Finance, réuni ce mardi à Asheville aux États-Unis. L'Union européenne y dénonce la présence du ministre russe des Finances, Anton Silouanov, jugeant que l'heure n'est pas à la normalisation avec Moscou et appelle ses partenaires à renforcer leur soutien financier à Kiev. L'Allemagne face à une série d'attaques contre ses infrastructures. Ce mardi, un engin explosif a endommagé un poste électrique près d'une centrale thermique sans faire de blessés. Un incident qui intervient alors que Berlin s'apprête à accuser la Russie d'être à l'origine de la tentative d'attentat au drone explosif contre l'aéroport de Leipzig début août. Face à des réserves de gaz particulièrement basses, l'Allemagne se tourne vers l'Algérie pour sécuriser son approvisionnement à long terme. Berlin qualifie Alger de partenaire fiable alors que la crise dans le détroit d'Ormuz fait grimper les prix de l'énergie. Cette fusillade meurtrière ce mardi aux Pays-Bas, une personne a été tuée, 2 policiers blessés dans un village proche de la frontière allemande. Plusieurs suspects ont été arrêtés selon les médias néerlandais. L'affaire pourrait être liée à l'entourage de l'un des barons de la drogue les plus recherchés du pays. En Europe toujours, l'industrie textile réclame ce mardi de nouvelles mesures contre les plateformes asiatiques comme Shein, Temu et AliExpress. Elle propose des frais de traitement de 10 euros par colis. Objectif affiché, renforcer les contrôles douaniers et rétablir une concurrence jugée plus équitable avec les entreprises européennes. En France, l'ami de 30 ans devenu son rival pour l'Élysée, Édouard Balladur, restera indissociable de Jacques Chirac et de leur duel fratricide de 1995. L'ancien Premier ministre est mort hier à 97 ans, emportant avec lui une certaine époque de la Ve République. Homme de pouvoir, économiste reconnu, personnalité parfois jugée distante ou autoritaire, le politologue Roland Kayrol revient sur ce qui restera de la figure Balladur.
Édouard Balladur va rester un personnage qui a marqué la Ve République par son caractère, son personnage, quelqu'un d'un petit peu arrogant, sûr de lui, un peu dominateur, et puis quelqu'un en même temps qui a marqué par sa fréquentation des puissants, la différence qu'il avait avec son ami de 30 ans, comme on disait, Jacques Chirac, un match mémorable entre eux, qu'il a fini tout de même par perdre, puisque c'est Jacques Chirac qui a été président de la République. Bref, un personnage qui n'est pas arrivé à entrer beaucoup dans le cœur des Français, mais qui avait un talent réel et pour la politique et pour l'économie, et qui a évidemment été un personnage extrêmement important de notre vie politique.
Et c'est l'une des dernières figures de l'ancien monde, si je puis dire, qui vient de disparaître.
Oui, c'est incontestablement une figure de l'ancien monde. On imagine mal aujourd'hui des hommes publics communicants se comporter de cette façon. C'était, oui, c'est en effet, il avait 97 ans, il a donc traversé le siècle, c'est le cas de le dire. Et en effet, c'est une façon d'être en politique qui a probablement disparu avec lui.
Roland Kayrol, politologue au micro de François-Xavier de Calonne et Paris, rend hommage à Édouard Balladur. Un registre de condoléances a été ouvert ce mardi à la mairie du 15e arrondissement, un territoire qui fut son fief électoral, où l'ancien Premier ministre, décédé donc à 97 ans, avait été élu député à 5 reprises. Rentrée des classes ce mardi pour plus de 11 millions d'élèves en France, avec une nouveauté majeure, l'interdiction du téléphone portable, désormais étendue au lycée. Emmanuel Macron s'est rendu à Mende-en-Lorèze pour cette première journée, tandis que dans les académies de Toulouse et Nantes, la reprise reste perturbée par les conséquences de la cyberattaque contre l'éducation nationale. Et ils ont repris le chemin de l'école ce matin, mais ce soir, certains ne savent toujours pas où ils vont dormir. En France, 2355 enfants sont restés sans solution d'hébergement après un appel au 115, selon la Fédération des acteurs de la solidarité et l'UNICEF France. Et ce chiffre, déjà très élevé, ne montre qu'une partie de la réalité, souligne Nathalie Latour, directrice de la Fédération des acteurs de la solidarité.
Le chiffre est effectivement très sous-estimé, parce que les 2355 enfants viennent des parents qui appellent le 115 et pour lesquels on dit qu'il n'y a pas de possibilité d'accueil faute de place disponible. On sait par exemple dans le cadre des Nuits de la Solidarité que le taux de non-recours, c'est-à-dire les personnes qui n'appellent plus le 115, est estimé à 76%. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans les appels au 115 sur la question des enfants, des mineurs, ne sont pas recensés aussi les mineurs non accompagnés. Et par exemple, la Coordination nationale des jeunes exilés en danger recensait en juin 2025 plus de 1087 enfants MNA qui étaient dans les squats et dans les campements. Donc oui, c'est un chiffre qui est loin d'être la réalité du nombre d'enfants qui sont sans solution d'accueil et d'accompagnement.
Et que l'on pourrait donc multiplier par 2,5, hein, d'après ce que vous nous dites.
Exactement, au minimum, oui, tout à fait.
Il y a des élèves, bien entendu, parmi ces enfants. Il y a des bébés, de jeunes enfants, des élèves également.
Tout à fait. En fait, on a aujourd'hui, le dispositif d'hébergement étant tellement contraint, on a aujourd'hui des critères d'accès à ce dispositif qui deviennent de plus en plus difficiles. Avant, post-Covid, quand vous aviez effectivement une famille qui appelait ou même des femmes enceintes avec des jeunes bébés, on était tout de suite sur le pont. Aujourd'hui, on a aussi la proportion d'enfants de moins de 3 ans ou de moins de 1 an qui augmente en fait année par année. Et bien évidemment, heureusement, on a aussi la mobilisation de parents d'élèves, d'enseignants, avec lesquels nous, on travaille beaucoup, parce que ces parents ou ces enseignants se rendent compte de plus en plus que dans les classes de leur enfant ou de leur élève, il y a des enfants qui, le soir, sortent de l'école et vont dormir à la rue.
Nathalie Latour, directrice de la Fédération des acteurs de la solidarité, au micro de François-Xavier de Calonne. C'est la fin de cette édition. Merci à Mohamed El-Bezeri pour la mise en onde. Prochaine édition en langue arabe à 17h30, ce sera avec Roger Houri. Je vous retrouve à 18h pour un point complet de l'actualité. Excellente écoute sur Radio Orient.